Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Droit scolaire, mensonges et radio. Aujourd'hui, l'émission vous est présentée par Julien, Sébastien et Nicolas, qui sont tous étudiants. Cette émission traite du droit scolaire et plus particulièrement, dans ce cas-ci, des exclusions. Cette réalisation est le fruit d'un partenariat entre Radio Panique, InfoJeuneLacune et Itinéraire AIMO. Cette émission est aussi subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, la problématique des exclusions fait l'actualité. Les exclusions sont de plus en plus fréquentes. Et donc, pour traiter ce sujet, nous accueillons Bernard DeVos, délégué général de la communauté française aux droits de l'enfant, et Djamila, élève qui s'est fait exclure de son école. Donc, bonjour Djamila.
Bonjour.
Tu as accepté de partager ton expérience avec nous. Et tout d'abord, est-ce que tu peux un petit peu nous la raconter ?
Oui, donc l'année dernière, j'étais scolarisée en 6e secondaire, donc au collège Jean-Pierre Ducle. Et en fait, à la fin de l'année, ça ne s'est pas très bien passé. Donc j'ai eu une attestation AOC, donc j'ai doublé mon année. Mais bon, ce n'était pas ça le pire, vu que quelques jours après mes résultats, j'ai reçu un recommandé de l'école me disant que je rentrais dans une procédure de non-réinscription. Donc en gros, j'étais exclue de l'école. Donc voilà, j'ai reçu ça avec une liste de plein d'arguments qui disaient que j'étais exclue de l'école.
Et comment est-ce que tu as vécu cette situation ? Quelle a été ta première réaction face à celle-ci ?
Mais j'ai été très choquée et j'ai pas tout de suite compris vu que je m'y attendais vraiment pas. J'ai pas été une élève problématique, j'ai jamais eu de problème avec les profs, avec la direction, quoi que ce soit. Donc oui, ça a été vraiment un choc. Voilà.
Ok. Et au niveau de tes parents, quelles ont été leurs réactions ? Ont-ils automatiquement pensé que tu étais responsable de ça ? Est-ce qu'ils t'ont fait un petit peu, en quelque sorte, culpabiliser par rapport à ça ? Est-ce qu'ils étaient dans l'incompréhension ?
Non, justement, voilà, ils étaient dans l'incompréhension. Ils savent comment je suis, comment je me comporte. Et là, vu les arguments que donnait la direction, c'était pas du tout moi. Ils m'ont posé la question pour savoir ce que j'en pensais et j'ai dit que c'était faux, que c'était injuste qu'on m'exclue comme ça. Et donc, j'ai pas dû... Enfin, ils m'ont cru, quoi.
Oui, c'est ça.
Alors, Djamila, bonjour.
Bonjour.
Quelles répercussions ça a eu sur tes études, tout ça ?
Mais ça m'a beaucoup démotivée. Déjà, je me retrouvais sans école pendant les vacances, donc c'était la course pour trouver une école, surtout qu'il faut la même grille horaire, donc c'était très compliqué. Et donc, on a passé tout notre été, mes parents et moi, à chercher une école. Finalement, on a trouvé, et dès qu'on a trouvé, j'avais cette motivation, donc je voulais réussir pour leur montrer que j'étais capable et que c'était possible, et voilà.
Et est-ce que tu as cru ne rien pouvoir faire à ce moment ou à un moment donné, par rapport à ça, ou que c'était perdu d'avance face à l'école ?
Oui, bien sûr, au début, pour moi, c'était perdu d'avance. Beaucoup de mes camarades me disaient « Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu veux faire contre eux ? C'est le collège Saint-Pierre, c'est une grosse école, tu peux rien faire contre eux. » Et donc, plusieurs fois, j'ai presque baissé les bras, mais quand je suis tombée sur InfoJeune, justement, ils m'ont dit que c'était pas normal cette situation, que c'était injuste et qu'il fallait se battre et continuer, et ils m'ont redonné cette motivation en quelque sorte.
Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu considères que les jeunes et les parents sont assez informés par rapport à ce genre de problématiques ?
Concernant InfoJeune et les centres comme ça
ou par rapport à ce genre de situation ?
Oui, je pense que... Personnellement, je ne connaissais pas du tout InfoJeune ni les centres qui défendent les jeunes. Donc, je ne sais pas si, au niveau de la visibilité, je les connaissais pas du tout. Et donc, je trouve que c'est dommage, parce que ce n'est pas l'école qui va nous dire « oui, voilà, il y a des centres pour vous défendre, etc. » Donc, on doit tout faire par nous-mêmes.
Donc, est-ce que tu estimes que c'est facile de trouver de l'aide dans ces cas-là, justement ?
Moi, je suis bien tombée vu que j'ai directement trouvé, on va dire, c'est une amie qui m'a dit qu'InfoJeune était là pour nous. Donc moi, je suis vite tombée sur InfoJeune et ils m'ont très bien aidée. Donc ça a été.
Et comment est-ce que tu t'es défendue ? Ça a été quoi tes arguments et les arguments que tu as pu utiliser et les recours que tu as pu utiliser face à ça ?
Donc je me suis principalement défendue avec un fort jeune et on les a attaqués en quelque sorte au niveau d'abord du fond et puis de la forme. Déjà pour la forme, il y a beaucoup de procédures qui n'ont pas été respectées. Notamment avec le délai de jour pour remettre le recours, donc plein de choses comme ça sur la forme, mais sur le fond aussi, et c'est plus ce qui m'a touchée, vu qu'il y a plein de faits qui ont été inventés, qui ont été modifiés, et donc voilà, on les a attaqués sur le fond et la forme.
D'accord, merci Djamila. On revient tout de suite après une petite pause musicale.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to talk. I really hate the trip, but I gotta low. As they grow, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of need a little homie wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23, never will I live to see 24. The way things are going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's missing. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Donc voilà, nous revoilà avec Djamila, une élève qui s'est fait exclure de son école. Alors Djamila, est-ce que tu pourrais un petit peu nous réexpliciter un petit peu les faits qui se sont passés dans cette école et pourquoi est-ce que tu t'es fait voir exclure de cette école ?
Ok, je veux bien vous citer quelques petits arguments. Donc premièrement, on m'a reproché d'avoir signé une lettre, une pétition. En fait, au cours de l'année, on a eu beaucoup de difficultés, moi et mes camarades de classe et moi, en mathématiques. Et donc on a créé une pétition, on l'a signée pour qu'il y ait un changement. Et justement, dans ma lettre d'exclusion, on reprend ça et on dit que voilà, on me reproche d'avoir signé cette lettre. Un autre argument, on me dit que mon nombre de retards et d'absences est trop élevé. Donc pour les absences, elles ont été justifiées par des certificats. Et pour les retards, j'ai remboursé ma dette, si on veut, vu que j'ai fait des retenues. Donc voilà. On me dit aussi que j'ai refusé d'enlever mon foulard à une sortie. Donc on me cite la sortie Oxfam avec le cours de géographie, une sortie qui n'a jamais eu lieu. Un autre petit fait farfelu, on va dire, qui me reproche, c'est qu'au rendez-vous parents-prof, j'étais accompagnée d'une femme qui n'était pas ma mère, alors que c'était ma mère. Donc enfin, franchement, des petits trucs comme ça qui m'ont fait beaucoup rire.
On sent bien qu'il y a une réelle entreprise de vouloir t'exclure toi, et tu as été pris en grippe, en quelque sorte, par l'école, en fait. Et c'est un peu ça aussi ton ressenti. Et donc, après tous ces faits, tu es venu donc chez Infojeunes Laeken s'en est mêlé, et donc, ils ont dû te réintégrer. Comment est-ce que ça s'est passé, cette réintégration dans l'établissement?
Mais en fait, dès qu'on a eu un avocat, donc avec Infojeunes Laeken, dès que l'école, donc le collège Saint-Pierre-Hucle, ont eu écho de cet avocat, ils se sont directement rétractés et ils ont voulu nous réintégrer. Oui, voilà, leur attitude a changé, ils ont voulu nous réintégrer, les bras grands ouverts, enfin, c'était vraiment deux attitudes rien à voir, c'est voilà, parce qu'il y a eu une menace, ils ont changé d'avis.
Bah, ils voient bien qu'ils ont quelqu'un en phase 2 qui est un petit peu plus de force, et donc oui, ils se sont complètement rétractés et changé leur...
Monsieur DeVos, tout d'abord bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre institution, son histoire et son actualité ?
Quelques mots, ça va être difficile, je vais essayer de faire le plus court possible, mais qu'on comprenne quand même un peu de quoi il ressort. Hein. Donc, en gros, vous savez sans doute qu'il existe une convention internationale des droits de l'enfant. C'est un texte international majeur, c'est le texte international le plus signé, le plus ratifié au monde. C'est une convention qui a 25 ans, qui est encore particulièrement mal appliquée partout dans le monde, y compris en Belgique, en communauté française, Fédération des Bruxelles, on vient de l'entendre avec le témoignage. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et donc globalement, mon institution est en charge de la défense et de la promotion de cette convention. Donc je suis l'institution garante de l'application de cette convention pour la Fédération des Bruxelles. Et donc quatre missions principales, récolte des questions et des plaintes concernant l'application de cette convention, promotion de la convention, faire en sorte qu'elle soit plus connue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est appliquée vaille que vaille, tout le monde ne la connaît pas, donc comment voulez-vous qu'elle soit appliquée correctement ? Une mission d'inspection et de contrôle des services. Et puis, finalement, une mission très importante, qui est une mission de recommandation et d'interpellation des pouvoirs politiques et administratifs autour de la question des droits de l'enfant pour tenter de faire évoluer favorablement cette question dans notre société.
Pouvez-vous nous expliquer la procédure que l'école doit respecter en cas d'exclusion ?
Alors, c'est un peu complexe à expliquer en quelques minutes, mais je dirais qu'il faut d'abord savoir que la procédure en matière d'exclusion, il y a une série de règles à respecter. Il y a la légalité, il y a la proportionnalité des mesures, il y a la gradation des sanctions, il y a toute une série de principes qui doivent être respectés. Donc, par exemple, quelque chose qui n'a pas été respecté dans le cadre de la situation de Jamila, c'est qu'on ne punit pas deux fois pour un même fait. Une fois qu'on sanctionne, entre guillemets, une fois qu'on arrête une situation, on ne peut pas se permettre de la ramener encore. C'est un principe de droit élémentaire qui doit être appliqué. Donc, ça, c'est le principe de légalité. Pour le reste, c'est une procédure assez complexe, mais elle est très bien codifiée. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir d'erreur de ce côté-là. Les responsables institutionnels savent très bien quand il y a une erreur, c'est que on peut se dire qu'il y a un outil vraiment fâcheux ou bien il y a une volonté en tous les cas d'essayer de contrevenir à la règle. Alors je dis tout de suite, et je crois que c'est important de le dire, il y a des écoles où ça se passe très bien, il ne faut pas non plus noircir le tableau, il y a des écoles qui sont parfois pointer du doigt, et c'est souvent par falaise, souvent les mêmes d'ailleurs, mais il y a des écoles qui fonctionnent correctement avec cette procédure. Donc la procédure prévoit clairement qu'avant toute exclusion, le conseil de classe se réunisse avec les enseignants qui sont en contact avec le jeune ou la jeune concernée, que à ce conseil de classe participent aussi des acteurs extérieurs, dont un agent CPMS qui doit être présent. Il y a une possibilité, évidemment, il y a une audition qui doit être organisée, donc du jeune et de ses parents. Ça doit être organisé dans certains délais. Il y a des délais qui sont impartis pour les convocations, entre le moment où la convocation est envoyée et l'audition a lieu, etc. Tout ça est très très bien normalement codifié. Ça ne doit normalement pas faire de soucis. Donc c'est une procédure qui normalement doit être cohérente et correcte. Mais on le sait que malheureusement, raison pour laquelle mon institution s'est penchée sur cette question récemment, ce n'est pas le cas partout.
Et je voudrais ajouter justement pour la dernière question qui s'est posée, le changement d'attitude qu'a eu l'école, donc dans un premier temps face à Djamila seule, et après avec un fort jeune qui s'en est mêlé.
C'est tout l'intérêt d'avoir des associations, des personnes qui sont prêtes à défendre les droits de l'enfant. Donc mon institution, évidemment, ne peut pas couvrir l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Heureusement qu'on peut compter sur des services comme InfoJeunes, comme certaines AMO qui sont à Bruxelles et partout ailleurs très engagées dans ces questions scolaires. C'est très très important d'être derrière. Et donc effectivement, parfois la menace, parfois la visite d'une inspection. Donc moi, c'est la procédure évidemment classique. Quand j'apprends qu'il y a eu un manquement ou une suspicion d'un manquement à l'égard d'un mineur d'âge dans une école, je demande à l'administration centrale, et c'est mon mandat, de diligenter une inspection qui va essayer de se rendre compte de la situation. Et effectivement, il arrive assez régulièrement que des décisions soient réformées suite à cette demande. Alors, ou d'autres, moi je le fais moi-même, mais donc on voit d'autres associations sont capables de le faire si elles sont bien informées elles-mêmes. Ce n'est pas le cas malheureusement de toutes les associations. Si elles sont un peu spécialisées dans la matière, ça apporte vraiment parfois une aide tout à fait considérable aux élèves concernés.
Quelles sont les conditions d'exclusion ?
Les conditions, normalement, le gros motif, c'est avoir atteint l'intégrité d'une personne. Alors, c'est l'intégrité physique, l'intégrité psychologique, mais c'est vraiment une notion extrêmement compliquée à déterminer. On peut débattre sur la question de l'intégrité physique ou psychologique de quelqu'un pendant des heures. Et donc, ce qu'on constate, et de nouveau, ça ne concerne pas toutes les écoles, il ne faut pas faire de caricature inutile, mais on constate que les motifs d'exclusion sont de moins en moins graves et qui sont de plus en plus constitués par ce que Djamila vient de donner, une accumulation de petits faits qui sont d'ailleurs souvent déjà sanctionnés, qui ne devraient donc pas s'y retrouver, et qui donnent à penser que l'élève est vraiment terriblement rétif à l'autorité, à l'ordre, à l'ordre scolaire, j'ai envie de dire. Donc, il nous semble vraiment que c'est important. En tous les cas, on a analysé plusieurs dizaines de dossiers d'exclusion qui nous paraissaient vraiment excessifs. Et donc, clairement, il y a là un souci majeur. Le motif invoqué en priorité, mise en cause de l'intégrité de la personne, ça peut être un élève, évidemment, ou une personne qui fait partie du corps enseignant ou un adulte de l'école, c'est un motif qui existe, évidemment, et qui reste tout à fait compréhensible. Mais malheureusement, on constate que ce motif principal est concurrencé par d'autres motifs qui sont beaucoup moins légitimes.
Et surtout, on voit dans la situation de Djamila qu'il y a une réelle entreprise avec des différents arguments, et même parfois faux. Dans ce cas-ci, l'école mène vraiment une entreprise de déstabilisation au niveau de l'élève, et elle utilise des arguments qui sont parfois pas vrais. Enfin, dans ce cas-ci.
Je ne connais pas le dossier, évidemment, mais clairement, dans l'analyse de plusieurs dossiers qui nous sont soumis, on réalise que l'intérêt supérieur de l'enfant, alors je m'arrête deux secondes sur l'intérêt supérieur, c'est une notion très très importante dans cette fameuse convention. C'est l'article 3 de la convention qui dit que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la priorité. Et donc, on imagine bien que pour Djamila ou pour d'autres qui se retrouvent exclus de leur école, alors qu'ils ont peut-être des difficultés autres, hein, et c'est peut-être pas le cas de Djamila, ça peut être le cas d'autres jeunes qui sont exclus, qui ont des difficultés familiales, qui viennent de loin, qui viennent d'arriver dans le pays, qui sont un peu lourdés pour une série de raisons, et qui se retrouvent en plus exclus de l'école, avec des difficultés. Là, on a eu un témoignage bien clair sur quand on vient avec un post-it « Je suis exclu de l'école », forcément, une autre école n'aura pas forcément envie de vous recevoir dans son école, surtout si on a passé la date fatidique qui met fin au calcul calcul des fameuses NTPP, les périodes, qui, pour, enfin le financement de l'école. Donc ça devient encore plus compliqué à ce moment-là, mais vraiment, c'est un souci, cette idée de renvoyer un élève d'une école parce qu'il n'a pas convenu à l'école, sans comprendre la catastrophe que ça peut représenter pour certains élèves, et ça, que ça représente pour tous les élèves. Être exclu en plein milieu d'une année, c'est souvent rater une année, ou en tous les cas la mettre en échec, et ne pas pouvoir se réinscrire. C'est extrêmement complexe parce qu'il faut retrouver une école, et vous savez qu'en plus on a une école fort, une école fort segmentarisée, avec telle filière, avec telle option, etc. Pour trouver une école, enfin tu n'en as pas parlé, mais c'est peut-être ça aussi la situation, pour retrouver la bonne école avec la bonne option dans un environnement proche du domicile, etc., c'est parfois extrêmement compliqué. Donc pour toutes ces raisons, le principe de déresponsabilisation des écoles sur une autre école, c'est un principe détestable et qu'il faut pouvoir combattre par tous les moyens.
Quelle est la différence entre exclusion et non-réinscription ?
En gros, exclusion c'est en cours d'année, non-réinscription c'est souvent à la fin de l'année, mais la conséquence est la même. Et donc de nouveau, dans les deux cas, ce sont des sanctions qui n'ont pas le caractère éducatif qu'elles devraient avoir. Le principe c'est que l'école c'est pas simplement un lieu d'instruction, c'est un lieu d'apprentissage, de socialisation, d'apprentissage à la vie en collectivité. Et donc si on gère toutes les difficultés par l'exclusion en disant « toi on ne te veut plus ici », Ça pose quand même des questions sur la responsabilité de l'école. Alors là, ce n'est pas tellement sur la matière d'instruction, d'apprentissage, mais sur d'autres formes d'apprentissage et sur l'éducation. Et là, vraiment, c'est un travers qui est vraiment inquiétant, surtout que l'examen des dossiers qui nous sont soumis tend à démontrer qu'il y a une augmentation de ces exclusions un peu trop hâtives.
Donc pour une réinscription...
Quand je dis un peu, c'est...
voilà. Donc pour une réinscription, c'est la même procédure que pour une exclusion. Et c'est les mêmes conditions qui doivent être...
Oui.
Merci. Oui. Quel recours s'offre à l'élève dans ce cas-là ?
Alors là, de nouveau, il y a des discriminations, et de nouveau, ça c'est en contradiction à l'article 2 de la Convention qui dit qu'il n'y peut pas avoir de discrimination entre les enfants. Là, en l'occurrence, certains élèves qui sont... Bon, il y a d'abord, très classiquement, il y a le recours interne et le recours externe. Hein. On peut d'abord rouspéter, faire valoir ses arguments à l'intérieur de l'école, dans un certain délai. Si on n'a pas fait un certain délai, il reste encore effectivement la possibilité de se plaindre auprès de l'administration centrale, donc ça c'est un recours externe. Le problème, c'est que la possibilité de recours n'est pas équivalente pour les élèves de tous les réseaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a des disparités. Et donc, moi, je réclame évidemment très fermement qu'il n'y ait plus de discrimination entre les élèves selon les réseaux dans lesquels ils sont scolarisés. Il faut que les possibilités de recours soient équivalentes pour tous les élèves, sans discrimination aucune. Ce n'est pas le cas actuellement.
En cas d'exclusion, l'école doit-elle aider l'élève à trouver une nouvelle école ?
Alors, le principe, c'est que l'école, normalement, ne devrait pas pouvoir, dans l'absolu, une école ne devrait pas pouvoir exclure sans proposer une réinscription. En l'occurrence, les écoles sont aidées par les commissions d'inscription zonales. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on sait bien que certains élèves restent... D'abord, il y a le problème de la durée entre l'exclusion et la réinscription ailleurs. Retrouver une école avec les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, difficultés dans une école très segmentarisée, qui fonctionne par filière, de trouver la bonne école au bon endroit, c'est la principale. Et donc, bonne volonté des intervenants dans le cadre des commissions zonales ou mauvaise volonté. Donc on sait que ça peut durer très longtemps. Ça, c'est un gros souci. C'est parfois pas toujours... toujours facile et pas toujours possible de trouver la même option. Donc on oblige parfois des enfants à changer d'option en cours de carrière scolaire alors que ce n'est pas leur souhait, c'est moche. Et puis pour le reste aussi, ce qu'on constate aussi, c'est que beaucoup d'enfants sont exclus de l'école pendant la procédure. Et normalement, tant que la procédure est pendante, il n'y a pas lieu d'exclure un enfant de l'école. L'obligation scolaire, elle existe. Et donc pendant la procédure, tant que les faits ne sont pas jugés, entre guillemets, il n'y a pas de raison d'exclure. Donc c'est une série d'éléments qui sont quand même importants à retenir.
J'aimerais bien revenir sur Jamila. Est-ce que, lors de ton exclusion, est-ce que l'école a entrepris des solutions pour toi pour le futur ?
Dans le dernier courrier, on m'a effectivement, en bas de page, donné une adresse. C'était un centre PMS. Je m'y suis rendue, mais ça ne m'a pas vraiment aidée, vu qu'il y avait tout le problème avec la correspondance de grille horaire. Et donc, voilà, ça ne m'a pas beaucoup aidé.
Donc c'était un petit peu un combat aussi un petit peu difficile de retrouver une école après.
Oui,
quoi.
Voilà.
On revient sur M. Devas.
Merci Pierre.
Dans le cas d'un élève exclu en fin d'année, une école peut-elle refuser d'inscrire l'élève pour inscription tardive ?
Alors ça, évidemment, c'est très compliqué. Le principe, c'est non. La réalité, on sait bien qu'il y a beaucoup de soucis avec ça aussi. Mais moi, je pense que finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'excision est beaucoup trop régulière et donc on réalise que ces excisions, il y a des constantes, quoi. C'est souvent dans le premier degré, c'est sans doute pas sans rapport avec la nouvelle formule d'inscription où on se rend compte que certains élèves qui sont rentrés par les portes, ben, si on peut les chasser par les fenêtres assez rapidement, ça existe quand même, c'est quand même une réalité. Et donc comme par hasard c'est là, à la fin, troisième professionnel, beaucoup d'excisions aussi, beaucoup de garçons. Il y a des constantes qu'il faut pouvoir analyser finement. Et ça, je pense qu'il faut faire le travail. Je sais qu'il y en a qui le font et je pense que ça devrait offrir en tous les cas un regard assez complet sur cette réalité, parce que parfois on juge sur un dossier, sur deux dossiers, et puis quand on réalise qu'il y en a quand même 50, 60, 80 avec des situations plus ou moins identiques, on peut se poser la question, c'est plus une anecdote, c'est plus un fait anecdotique, c'est une pratique. Et là, ça devient vraiment très inquiétant. Mais je pense qu'il faut simplement rappeler que l'exclusion, ça devrait être tout à fait la dernière mesure. Or, on réalise que effectivement, dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas, entre guillemets, d'avertissement suffisant, il n'y a pas de mesure éducative préalable. On ne dit pas aux jeunes suffisamment à temps, attention, faisons quelque chose de cohérent. Ou bien on le fait de manière relativement peu sincère. C'est la question des fameux contrats pédagogiques ou des contrats d'insertion ou de maintien à l'école, où on dit, on essaie de faire croire. De nouveau, certaines écoles le font correctement avec sincérité, mais on réalise que dans beaucoup d'écoles, ces contrats sont finalement l'antichambre de l'exclusion, puisque les conditions de réussir le contrat sont tellement minimes que forcément c'est l'antichambre. Du genre, un gamin qui arrive régulièrement en retard à l'école et qui est insultant vis-à-vis de ses enseignants, on lui fait signer un contrat du jour au lendemain, dès demain j'arriverai à l'heure et je serai plus insultant avec mes enseignants, le lendemain, si c'est pas se lever, il va arriver à se lever. Donc il va arriver en retard, deux fois, trois fois d'affilée, il va arriver trois fois d'affilée en retard, et le prof ou le proviseur va lui dire, hey, garçon, t'arrives en retard, il dit, ta gueule, fils de... Et voilà. Et donc, en deux minutes, évidemment, le gamin n'aura pas respecté son contrat, ce qui va lui permettre de l'hyper-responsabiliser, de le sur-responsabiliser en disant, tu as vu, tu n'as pas respecté les termes du contrat et donc tu es exclu. Et donc il y a une espèce d'essai de justification de pratique tout à fait pas correcte, à mon sens, et ça n'empêche que certaines écoles qui utilisent le même type de contrat pédagogique ont des résultats brillants, parce qu'ils font vraiment le travail, et donc j'encourage à le faire. Donc je ne suis pas contre les contrats pédagogiques, mais contre l'utilisation qu'on peut en faire. Et donc ça peut être... Un préfet, un enseignant qui rencontre un élève, qui ne sait pas se lever, qui arrive en retard, et bon, l'école peut se dire, tiens, ben écoute, t'as pas quelqu'un qui habite près de chez toi, on pourrait lui demander de venir sonner, est-ce qu'on peut te réveiller avec ton GSM, un petit SMS, un appel, quelque chose qui peut t'aider, si tu as envie d'insulter ton prof, tiens, on pourrait te permettre d'aller dans une pièce particulière où tu peux aller taper sur un sac de boxe, enfin, on peut tout imaginer, mais pour permettre en tous les cas que ce contrat puisse être rempli par le jeune plutôt que le mettre en difficulté et le responsabiliser, et c'est la voie royale pour l'exclusion souvent.
Tout de suite, un petit interlude musical.
Quel bonheur.
Jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor. C'est éclater les songes de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche Neige et les sept nains. Maintenant les nains on gicle Blanche Neige et ça fait classe. Des types classe dans Mortal Kombat. À 13 ans il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le taille de ton des boum qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère de tes pierres. Je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. De pingue et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. Le domaine a certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les pipes.
vibration des dames, dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes. Il veut jouer du revolver, petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de ses yeux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
Les journalistes font des mots de la violence à l'école, existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, les tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal, tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé à la pub aux actes violents pour des grandes gosses et de meilleurs citrons. La cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de ses yeux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
Monsieur DeVos, pouvez-vous nous expliquer les différences de procédure d'exclusion entre élèves mineurs et élèves majeurs ?
Madame, c'est surtout au niveau de la réinscription qu'il y a une grosse différence. C'est qu'un élève mineur, ben, il doit être réinscrit. Et donc, on fera en sorte, malgré les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, la difficulté de retrouver une école quand on a un post-it sur le front disant « je suis remballé de notre école », ce n'est pas toujours évident. Mais pour les élèves majeurs, par contre, là, les écoles peuvent tout à fait bien refuser. Donc, on a des gamins et des gamines qui vont au-delà de 18 ans parce qu'ils ont eu des échecs parfois et des difficultés pour... terminer leur parcours et qui se retrouvent à un an d'avoir un diplôme, qui ne trouvent plus d'école parce que les écoles n'en veulent plus. Et donc ça, évidemment, c'est un gros souci.
Comment se fait-il que les écoles ne soient pas davantage contrôlées ?
Bon, je pense qu'elles le sont, mais elles ne le sont pas toujours sur les bonnes questions. Donc effectivement, sur ces questions d'exclusion, pour être plus vigilant, il y a d'autres questions qui font gros souci à l'école, sur lesquelles le contrôle, à mon avis, est insuffisant, notamment sur la question de la gratuité scolaire, qui est inscrite dans une tripotée de textes, de règlements, de décrets, de circulaires, une application nulle part, avec des conséquences terribles, non seulement pour le portefeuille des parents, des enfants, mais surtout sur... j'ai envie de dire les relations au sein des écoles, quand on doit venir de l'école de l'argent et qu'on n'a pas l'argent, et que c'est vraiment moche, ça pollue vraiment les relations pédagogiques. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer une inspection parfois un peu plus ciblée sur des abus ou des tendances, entre guillemets, qu'on voit se dessiner et qu'il faudrait effectivement essayer de calmer avant que ça n'enfle, quoi, et que ça devienne vraiment un problème encore plus important.
Pensez-vous que des sanctions doivent exister pour les écoles et directions ne respectant pas les règles ?
Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire sanction. Moi, je sais pas. En tous les cas, il faut avoir un rappel à l'ordre. C'est évident qu'une école qui est, prise la main dans le sac en ayant bidouillé quelque chose de pas correct, bah, il faut en tous les cas que les PO et que l'administration le signifie, sanctionne de manière une autre. Enfin, sanctionner, le terme sanctionner, ça veut dire effectivement faire en sorte que ça ne soit pas, ça ne passe pas au bleu. Moi, je ne suis pas certain qu'il faut arracher un bras à un directeur. Je veux dire, mais non, je crois qu'il faut être effectivement clair en disant ça ne peut pas se faire et mettre vraiment en garde les écoles qui ont des pratiques qui ne sont pas correctes.
Quel type d'organisation peut venir en aide aux jeunes qui sont face à ces situations ?
Je pense qu'il n'y en a pas assez qui sont suffisamment compétentes sur ces matières. InfoJeunes notamment a développé une bonne expertise en la matière. Les services droits des jeunes ont développé une bonne... Mais ils ne sont pas tout à fait évidemment toujours bien représentés partout dans toutes les régions. À Bruxelles, il y en a pas mal, mais pas suffisamment. Donc InfoJeunes là connaît certainement à développer une expertise certaine en la matière. Les services droits des jeunes, il y a des AMO normalement qui devraient pouvoir faire ce type de travail, mais on réalise que même ces services-là qui devraient pourtant être à la pointe ne sont pas toujours suffisamment informés. Il faut dire que le droit scolaire, c'est un droit qui évolue très vite aussi. Hein. Donc, et que ce n'est pas toujours évident. Aller expliquer à un parent dans un quartier populaire le fameux décret inscription, il faut quand même s'y reprendre à quelques fois pour faire comprendre et bien permettre aux parents d'intégrer combien ce décret peut leur amener quelque chose de positif dans la trajectoire scolaire de leur enfant. Donc c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut effectivement orienter vers les services de première ligne, les services d'aide sociale spécialisée qui sont susceptibles de maîtriser ces questions-là.
Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette intervention et du sujet qui est donc l'exclusion. Donc je vais terminer par évidemment de remercier l'équipe radio Panique, Itinéraire AMO et InfoJeunes Laeken, mais aussi Bernard DeVos qui est le délégué général aux droits de l'enfance.
C'était avec plaisir.
Voilà. Et Jamila qui a fait part de son expérience d'une situation d'exclusion. Alors, je vous renvoie aussi vers d'autres choses. Donc, vous pouvez réécouter l'émission en consultant le site internet d'InfoJeunes, mais aussi InfoJeunes Laeken a fait une vidéo, une capsule qui concerne l'exclusion que vous pouvez aussi retrouver sur leur site InfoJeunes Laeken. Voilà.
I wipe my brow and I sweat my